Europe 1, 13h, 14h, le carnet du monde.
Carnet du monde. Дневники мира.
Europana.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans les carnets du monde. C'est parti pour une heure de vadrouille, de grands reportages, de rencontres pour écouter le monde changer. On sera d'abord en Grèce, en particulier sur l'une des 5 îles de la mer Égée où plus de 37 000 migrants vivent dans des conditions sordides. Une situation de crise accentuée ces dernières semaines par la décision du président turc de dire aux réfugiés sur son sol « Allez-y, je rouvre la frontière, la porte de l'Europe vous est ouverte ». C'est de l'instrumentalisation politique, mais qui oblige aujourd'hui l'Union européenne à faire face à la situation terrible créée par l'absence de politique d'asile. On sera sur l'île de Lesbos dans un instant, avec les habitants et les réfugiés. On sera à Bruxelles aussi avec Isabelle Horry. Et Jean Ziegler, du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, sera notre invité. Le Covid-19, on en parle aussi évidemment. Le virus prend ses aises en Europe. Et alors que l'heure est au confinement chez nous, la Chine voit l'épidémie décliner. À Wuhan, on ferme des hôpitaux d'urgence, les machines se remettent en marche dans les usines. Mais la surveillance reste encore très étroite. On sera à Pékin avec le correspondant d'Europe 1. Et puis on découvrira ensemble un matériau d'avenir. On le trouve dans la nature, il ne paye pas de mine, pourtant il est très très fort. On en fait des fibres textiles, des briques de construction. Il sait aussi dépolluer les sols imprégnés d'hydrocarbures. Cette petite merveille, c'est le champignon. Du côté des livres, Nicolas Caro nous emmènera vadrouiller sur des îles. Quant à Joseph, il est perplexe en ces temps de coronavirus. Pourquoi tant de frénésie autour du papier toilette? Les carnets sont ouverts et on file en Grèce.
Les carnets du monde sur Europe 1. Sophie Larmoyer.
Bruxelles avait passé un accord avec Ankara en mars 2016. La Turquie gardait sur son sol les migrants en route pour l'Europe en échange d'une aide financière de plusieurs milliards d'euros. Et elle l'a fait depuis 4 ans. 4 millions de réfugiés sont stationnés sur son territoire. Mais le 28 février dernier, la Turquie annonçait la fin du respect de cet accord et ouvrait ses frontières. Et depuis, des milliers de migrants ont repris la route et tentent de passer en Grèce. Un pays qui est déjà complètement submergé par la question de l'accueil des migrants, car la Grèce, aux frontières extérieures de l'Europe, fait partie de ces pays où ont été installés ce qu'on appelle des « hotspots », des zones de regroupement censées traiter les demandes d'asile. C'est ainsi que 5 camps ont donc grossi sur les îles de la mer Égée, dont Lesbos. C'est là qu'on vous emmène d'abord, car cette crainte d'un nouvel afflux a fait monter la tension ces dernières semaines. Dans le sud de l'île, le plus grand camp est totalement surpeuplé et les habitants qui s'étaient illustrés par leur hospitalité il y a 5 ans, à la création du camp, sont aujourd'hui à bout. Reportage d'Elisa Périgueur sur cette terre de colère où deux univers se croisent sans se côtoyer.
C'est un village d'ordinaire paisible dans les terres du sud de Lesbos. Il compte 1500 âmes, son nom est devenu célèbre ces dernières années, Moria. La nuit tombe. Ils sont une quarantaine de femmes et d'hommes d'un certain âge à se retrouver à l'entrée du village presque tous les soirs. Parmi eux, Stelios, chauffeur routier de 55 ans.
Nous sommes ici parce que nous voulons convaincre les migrants de ne pas traverser notre village. Ils font beaucoup de dégradations, de dégâts. On avait demandé à la police de s'en charger, mais ils n'ont pas assez d'effectifs. C'est pour ça qu'on fait ça.
En 2015, quand les autorités ont érigé aux portes du village un camp de réfugiés, c'était prévu pour 2000 personnes. Les déplacés y sont aujourd'hui 19 000. Des Syriens, des Afghans, des Congolais venus avec des rêves d'Europe. Ils vivent dans une grande précarité sous le regard des habitants.
Ces gens sont malheureux, ils sont épuisés parce qu'ils ont vécu, ils ont faim, ils veulent partir d'ici. Nous ne sommes pas violents avec eux, on ne les touche pas. Il n'y a pas de gens cagoulés ou d'extrémistes ici avec nous, seulement des gens identifiés dont on connaît les noms.
Si Stelios prend la peine de se justifier ainsi, c'est qu'une poignée d'extrémistes s'illustre désormais au grand jour à Lesbos, comme il y a 2 semaines dans le petit port de Termis dans l'est de l'île. Au bord de l'eau, face à une embarcation de réfugiés arrivés de Turquie, plusieurs habitants se lâchent.
Partez! Rentrez chez vous! Ramenez vos enfants! Vous ne les aimez pas! Partez!
Ce jour-là, des extrémistes s'en prennent aussi aux journalistes et à une représentante du Haut-Commissariat aux réfugiés, frappés ou bousculés violemment. Kostas Moutsouris assiste silencieux à la scène. Il est le gouverneur des îles du nord de la mer Égée, dont Lesbos.
C'est une région avec une coupure qui sépare deux différentes civilisations. Jusqu'ici,
c'est les civilisations, disons, européennes, ouest-européennes, chrétiennes. Et à partir d'ici, c'est le monde musulman. Toutes les religions, toutes les cultures sont bien respectées. Mais quand même, il y a une différence de culture. Ce n'est pas comme chez vous en France, ou à côté de chez vous, c'est la Suisse, ou c'est l'Espagne. Ici, c'est une coupure de civilisation. Et ça peut provoquer des problèmes, une fatigue.
Dans le camp de Moria, les migrants bloqués sont eux aussi fatigués. Les enfants courent entre les déchets. Le traitement de leur demande d'asile peut prendre 3 mois, comme 3 ans ou plus. L'Afghan Mazioula vit dans l'une des milliers de tentes avec sa mère et ses 5 frères depuis 13 mois.
Chaque nuit, on a peur que quelqu'un attaque notre tente, nous vole des choses, on dort mal. Et il fait froid sur cette île. Vous voyez, tous les enfants sont malades, ils sont grippés. Les gens de l'île nous voient comme des criminels. Ça nous rend très mal à l'aise. Quelques réfugiés se comportent mal, mais ça ne veut pas dire qu'on est tous mauvais.
Face à la situation qui empire, même les associatifs dénoncent une impasse. Atina soutient les réfugiés depuis 2015.
On les a aidés de plein de façons. Mais maintenant, on ne peut plus, ils sont trop nombreux. Et puis aujourd'hui, les aider, ce n'est plus leur donner des vêtements, de la nourriture ou un endroit pour dormir. La seule manière de les aider, c'est de les laisser partir là où ils veulent aller.
Depuis des mois, Lesbos réclame l'acheminement des migrants vers le continent grec. Il n'y a pas de transfert en vue. Les réfugiés, à bout, ont organisé début mars une manifestation devant le camp. Elle a fini sous les lacrymogènes des policiers anti-émeutes. À Lesbos, Elisa Périgueur, Europe 1.
Voilà pour ce reportage à Lesbos, dans le plus grand centre d'Europe. Bonjour Jean Ziegler.
Bonjour.
Vous êtes sociologue suisse, européen. L'an dernier, alors que vous assuriez la vice-présidence du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, dont vous êtes aujourd'hui toujours conseiller, vous vous êtes rendu à Lesbos, en mission pour l'ONU donc, et vous en avez tiré un livre, Lesbos, la honte de l'Europe. Alors c'est un livre très engagé, et je propose qu'on aborde la situation par les mots qui sont propres à ce lieu, hotspot d'abord, puisque ce camp de Moria, par exemple, où vous êtes allé, en s'en est un, grand comme 6 terrains de foot, et vous rappelez que ces lieux de regroupement s'appellent officiellement institution de premier accueil.
Oui, c'est le plus grand camp de réfugiés sur le sol européen. Moria, l'excellent reportage, en a parlé tout à l'heure. Il y a là des familles, des dizaines de milliers de personnes d'Irak, de Syrie, etc. derrière des barbelés depuis 2, 3, 4 ans parfois, qui attendent qu'on traite leur demande
d'asile.
Est-ce que totalement horrible, ils sont vus comme des ennemis de l'Europe, pas de l'Europe. C'est l'Union européenne qui dirige la Grèce dans la direction de ces camps de rétention qui, en fait, sont des... Le pape a dit ça rappelle des camps de concentration parce que les gens sont traités...
La comparaison est toujours compliquée.
Oui, mais c'était 2017, oui. Je m'appelais le pape. Les réfugiés qui ont déjà vécu les bombardements, les tortures dans leur pays, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, au Yémen, etc., sont traités comme des animaux.
Si on fait un constat très froid, en fait, l'équation est impossible. On regarde les chiffres, ils datent de novembre 2019, oui. Ce sont ceux que vous rappelez. Plus de 34 000 migrants sont recensés sur ces 5 oui. hotspots pour 6 400 places d'hébergement. Oui. Ça ne peut pas tenir.
C'est effrayant, ils sont entassés les uns sur les autres, ils sont serrés dans des tentes d'été, surtout dans des abris qui sont des vrais slums.
Oui, parce qu'il y a le camp officiel.
Vous avez raison, il y a le camp dans la caserne de Moria,
ancienne
qui était
militaire,
fait pour 2800 ouais. militaires, ouais. Et maintenant il y a 5 fois plus. Et puis il y a ceux qui ne trouvent pas de place, qui sont dans les eaux livrées complètement cette fois-ci.
Ouais, c'est un bidonville, quoi.
Et il y a une toilette, une cabine métallique pour 100 personnes, puant en général, boucher. La nourriture est insuffisante et souvent immangeable parce qu'il y a la corruption des militaires grecs qui jouent en défaveur des réfugiés, il y a la gale partout, il y a des maladies. Il y a un médecin pour tout l'immense camp, donc il n'y a pas de soins médicaux. Et surtout, il y a le désespoir. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est le suicide, les tentatives de suicide des enfants, des enfants qui s'automutilent, des petits gosses de 8, 10, 12 ans s'automutilent avec les couteaux dans dans le bras et qui essayent souvent de se suicider. Et c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue dans ma vie.
MSF a ouvert un centre de soins psychiatriques là-bas et vous dites que quand vous êtes allé le voir, la salle d'attente était absolument bondée, quoi.
Médecins sans frontières fait évidemment un travail magnifique, a une mission en dehors du camp puisqu'il ne veut pas s'associer à la corruption et à la cruauté du camp.
Ça veut dire qu'il y a des maladies mentales qui se développent à cause de ces conditions de vie.
Il y a des maladies mentales qui se développent à cause du désespoir extraordinaire. Parce que quand vous êtes mal nourri, traité comme un animal sans aucune information pendant 4 ans d'élite des barbelés dans le froid en hiver, il y a 3 enfants en février qui sont morts de froid et vous n'avez pas de perspective quelconque puisque l'Europe est barricadée, forcément le suicide est une tentation. Et ça, c'est totalement horrible.
C'est ça que vous dénoncez.
Je ne comprends pas pourquoi la France laisse passif, pourquoi la France, pays quand même des droits de l'homme, la France ne prend pas de réfugiés comme elle devrait.
Alors, vous savez que ce dossier des migrations, c'est un dossier extrêmement complexe, notamment à l'échelle de l'Europe. Il y a un autre mot que vous dénoncez dont vous dénoncez la pratique dans votre livre, ce sont les pushbacks. C'est une pratique des gardes-côtes turcs et grecs d'ailleurs pour empêcher les bateaux de rejoindre les îles et pour les refouler dans les eaux territoriales turques. Et ça, vous documentez ça sur un travail des ONG qui sont sur place et qui font des rapports régulièrement sur ces pratiques-là.
Oui, vous avez tout à fait raison. Les pushbacks, c'est aussi un autre aspect de l'attitude criminelle de l'Europe qui refuse le droit d'asile, qui est un droit universel de l'homme. Si vous êtes persécuté dans votre pays, et vous avez le droit de traverser une frontière et de demander protection de l'autre côté dans l'État. Ça, c'est empêché par les hotspots et surtout par ces pushbacks. C'est
normalement, ils doivent servir à traiter les demandes d'asile, les hotspots, justement.
Justement, mais ce n'est pas le cas.
Mais ça ne se passe pas exactement
comme
ça. Alors,
Frontex, l'organisation militaire policière de l'Union européenne, l'OTAN, il y a des bateaux de l'OTAN, des bateaux de guerre de l'OTAN, et les gardes-côtes grecques et turques attaquent en haute mer les zodiacs, les embarcations fragiles, les réfugiés pour les forcer violemment, tirent tout autour, créer des vagues pour les faire chavirer.
Votre théorie, Jean Ziegler, c'est de dissuader les réfugiés de venir,
Dissuader et empêcher physiquement les réfugiés d'accoster sur une des îles européennes. Et ça, c'est inadmissible parce que ça se passe en notre nom, au nom de l'Europe. Ça doit cesser. L'opinion publique européenne doit se saisir de ce scandale du refoulement et des pushbacks.
C'est intéressant, vous parlez de l'opinion publique et vous en appelez à une réaction citoyenne dans votre livre. C'est ça que vous demandez. Vous dites en démocratie, ce sont les citoyens qui peuvent décider, donc il faut réagir. Et en même temps, beaucoup de dirigeants, vous le savez, craignent leurs opinions publiques sur ce sujet d'immigration. Est-ce que vous diriez que l'Europe est un peu l'otage de la montée des extrêmes et du populisme en Europe? C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une certaine frilosité sur le sujet.
C'est vrai d'une part, vous avez parfaitement raison, les mouvements d'extrême droite, xénophobes, racistes, montent en France, en Allemagne, en Italie, etc., etc. Et ces mouvements se nourrissent de la haine des réfugiés. Mais la Commission européenne se trompe radicalement parce que c'est Munich. Les racistes, c'est des ennemis de l'humanité. Un antisémite, un antiféministe, un anti-islamique, un raciste est un ennemi de l'humanité. On ne peut pas l'apaiser en lui faisant des concessions, dire « Ah, on ne prend plus de réfugiés, on va violer le droit d'asile, alors vous taisez, etc. » Vous lui donnez au raciste le petit doigt, il prend la main, vous lui donnez la main, il prend le bras, vous lui donnez le bras, il prend tout le corps. Le raciste, il faut le combattre, je le répète, c'est un ennemi de l'humanité, mais jamais faire un pas dans sa direction. Donc, toute la politique européenne des réfugiés doit changer radicalement. Le réfugié n'est pas un ennemi de l'Europe, c'est un persécuté qui a droit légal à la protection.
Dernière question, Jean Ziegler.
Je vous en prie.
Certains membres de l'Union européenne sont justement en train d'organiser la venue de 1500 mineurs isolés, leur accueil dans différents pays. La Grèce le demandait depuis un moment, ça va dans le bon sens.
C'est une goutte d'eau et une goutte d'eau quand il s'agit de dizaines de milliers de gens parqués comme des animaux devant les frontières fermées de l'Europe, souffrant, désespérés. Eh bien, 1500 sauvés,
des enfants.
Ces enfants sont totalement insuffisants. C'est évidemment
un début.
Mieux que les totalement insuffisants. Mais l'opinion publique française doit se lever pour forcer le président de la République, qui est un homme de générosité certainement, d'ouvrir les frontières pour de l'accueil de quelques milliers au moins de réfugiés.
Merci beaucoup, Jean Ziegler. Je rappelle le titre de votre livre, un gros coup de colère, hein, c'est Lesbos, la honte de l'Europe, publié aux éditions du Seuil. Merci de nous avoir rendu visite sur Europe 1.
Merci de l'invitation.
Et on va voir dans quelques instants comment réagissent les 27 justement face à cette nouvelle situation et aux interpellations comme la vôtre, Monsieur Ziegler.
Europe 1, les carnets du monde.
13h19, la suite du dossier des carnets du monde sur la crise des migrants aux portes de l'Europe. Avec vous, Sophie Larmoyer.
Nous continuons à évoquer la situation des migrants ballottés entre la Turquie et la Grèce, cette nouvelle crise à la frontière terrestre, la situation désastreuse dans les hotspots des îles de la mer Égée. Et nous partons à Bruxelles pour en parler avec Isabelle Houry, notre correspondante spécialiste des affaires européennes. Bonjour Isabelle.
Bonjour Sophie.
On évoquait à l'instant avec Jean Ziegler les migrants mineurs non accompagnés que certains pays européens sont prêts à accueillir. Est-ce que ça prend forme concrètement ?
Alors, c'est une proposition qui est venue de l'Allemagne il y a une semaine. Selon la Commission européenne, 7 pays sont volontaires, dont la France et l'Allemagne, donc, pour accueillir 1600 enfants non accompagnés. Côté français, ça devrait tourner autour de 300, mais comme l'accompagnement des mineurs non accompagnés relève des départements et pas de l'État, eh bien, il faut un peu de temps pour évaluer leur capacité.
En revanche, côté allemand, effectivement, les villes sont déjà mobilisées. On va entendre le maire de Potsdam, près de Berlin. Il est au micro d'Hélène Kohl.
Dans un premier temps, nous avons annoncé que Potsdam pouvait prendre 5 enfants et nous avons demandé aux autres communes, et vous combien ? C'est ainsi qu'avec les autres grandes villes allemandes, nous arrivons au chiffre de 500. Il faut être pragmatique, les mineurs non accompagnés ont besoin d'une prise en charge particulière. Il leur faut des lieux où ils se sentent en sécurité, il faut des spécialistes de l'enfance. Et puis dès qu'ils commencent à parler notre langue, il faut des places à l'école afin qu'ils puissent avoir la possibilité de reconstruire leur vie. Or tout ceci, les communes l'ont mis en place en 2015-2016. Au total, en Grèce, les ONG nous disent qu'il y a 500 enfants de moins de 14 ans, seuls, non accompagnés. Et c'est pourquoi nous avons dit que ces 500-là, nous sommes prêts à les faire venir immédiatement.
Voilà, 500 enfants, 500 mineurs non accompagnés accueillis en Allemagne, 1600 en tout. Vous dites, Isabelle, que 7 pays sont volontaires. 7 sur 27, c'est très peu.
Oui, mais c'est un fait aujourd'hui que dans l'Union européenne, la plupart des pays ne veulent accueillir personne. Selon les estimations, il y a plus de 5000 migrants de moins de 18 ans sans famille en Grèce. Le ministre grec qui est en charge du dossier affirme qu'il a écrit aux autres pays européens dès le mois de novembre pour appeler au secours et qu'à l'époque, il n'a reçu qu'une seule réponse. Alors, ce qui se passe ces jours-ci change un peu la donne et donc quelques capitales ont voulu envoyer un message de solidarité à la Grèce. Mais quand même, les autorités allemandes ont cru nécessaire de préciser que l'opération qui est en cours concerne seulement les enfants malades et ceux qui ont moins de 14 ans, essentiellement les filles, tant les réticences sont fortes.
Isabelle, il y a eu aussi beaucoup de critiques ces derniers jours contre l'attitude de la Grèce, qui a fermé sa frontière, qui a suspendu les demandes d'asile pendant un mois, qui est accusée aussi parfois de repousser les migrants de manière illégale. Que disent les institutions européennes ?
Eh bien, elles sont horriblement mal à l'aise parce que c'est très compliqué pour Bruxelles de critiquer ouvertement un État membre de l'Union européenne. Leurs réponses sont vagues, gênées aux entournures. On n'a jamais une condamnation explicite des actions d'Athènes. Il y a quelques jours, à son retour de Grèce, le vice-président chargé de protéger le mode de vie européen, c'est son titre, le grec Margaritis Kinas, a bien résumé la ligne.
Je ne vais pas juger la situation à partir des médias sociaux. J'étais sur le terrain. Cela va sans dire, nous déplorons toute perte de vie humaine. Mais c'est vrai aussi que les gens qui sont attirés dans une situation dangereuse par de fausses promesses, qui sont manipulés et instrumentalisés, contribuent à créer une situation exceptionnelle qui doit revenir à la normale.
Voilà, hein, la solidarité avec la Grèce passe avant tout, tant les autres pays comptent sur elle pour ne pas laisser passer les migrants. Alors 700 millions d'aides vont être débloquées sur le budget européen et ils vont par exemple financer un plan de retour volontaire pour 5000 migrants économiques retenus dans les camps des îles.
Des vidéos et des articles de presse très documentés font état d'attitudes extrêmement contestables, parfois illégales, de la part des gardes-côtes grecs, on en parlait hein, tout à l'heure, ou encore de la part de la police grecque sur la frontière avec la Turquie où la situation est très tendue. Ces éléments, Isabelle, ne font pas bouger Bruxelles, n'incitent pas à condamner ces pratiques malgré tout.
Écoutez, jeudi, la commissaire en charge des affaires intérieures, la suédoise Ylva Johansson, était en Grèce avec l'intention affichée de faire la lumière sur les accusations d'atteinte aux droits de l'homme. Parce que, par exemple, le New York Times a publié cette semaine une enquête très documentée sur les mauvais traitements infligés à des migrants en Grèce. Le journal a pu parler à plusieurs personnes qui ont réussi à passer la frontière et qui ont été rassemblées sur un site secret avant d'être mises dans des camions et expulsées vers la Turquie sans pouvoir déposer de demande d'asile, ce qui est totalement illégal. Eh bien, lors de sa conférence de presse à Athènes, la commissaire Johansson a laissé le ministre grec répondre à sa place. Il a évidemment nié ces accusations et réaffirmé que la Grèce respectait ses obligations internationales. On peut espérer que la commissaire a posé des questions en coulisses, mais en tout cas, rien devant les micros.
Et sur un plan politique vis-à-vis de la Turquie, on a l'impression que c'est le président Erdogan qui garde la main, qui instrumentalise toujours.
Vous le savez, depuis 2016, il y a donc ce fameux accord UE-Turquie qui prévoit notamment que ce soit les Européens qui payent pour que Ankara garde les réfugiés syriens sur son sol. En clair, ils se sont mis en position de faiblesse vis-à-vis d'Erdogan. À ce jour, l'Europe a versé un peu plus de 3 milliards d'euros sur les 6 prévus au total. Mais l'ensemble des crédits est déjà engagé pour des écoles, de la nourriture, etc. Erdogan pèse parce que l'argent va directement aux porteurs de projets, aux associations, sans passer par son gouvernement. Il voudrait plus d'argent pour les années qui viennent. Alors cette semaine, il était à Bruxelles. Les deux parties ont décidé de lancer une forme de dialogue sur cet accord avec l'objectif de trouver une solution avant la fin du mois. Mais les 27 veulent d'abord être certains que la Turquie n'affrète plus de bus de migrants vers la frontière.
Ce qu'on comprend aussi à la lumière de cette nouvelle crise, Isabelle, c'est que l'Europe n'a pas vraiment progressé depuis 2015. Les problèmes qui se posent semblent toujours les mêmes. Pas de solidarité, pas de politique commune d'asile.
Sur les frontières, quand même, les choses ont bougé, mais dans le sens d'un durcissement. Aujourd'hui, c'est vraiment clair, la ligne dure l'a emportée, celle qu'incarnait Viktor Orban en 2015 face à Angela Merkel. Ouais. Désormais, l'Europe est vraiment barricadée, ça ne fait plus de débat. Les 27 se sont d'ailleurs mis d'accord pour renforcer le rôle de l'agence Frontex. Elle va recruter 10 000 gardes frontières européens. Vendredi, Frontex a d'ailleurs pu déployer des renforts à la frontière gréco-turque. Là où ça n'a pas avancé d'un iota, c'est sur la gestion des réfugiés et des demandeurs d'asile, le fameux système de Dublin. Les efforts de la Commission pour créer un mécanisme obligatoire de répartition en cas d'afflux trop difficile à gérer pour un seul pays, eh bien, ces efforts se sont fracassés sur la mauvaise volonté des États et depuis, eh bien, il ne se passe plus rien.
Et on en voit les conséquences humaines terribles, notamment en Grèce aujourd'hui. Est-ce que la nouvelle Commission compte se saisir de ce dossier en souffrance ?
Oui, c'est dans son mandat. Elle doit présenter un nouveau pacte pour la migration et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, nous a annoncé qu'il viendrait après Pâques. Ouais. Ce pacte doit justement réformer le système de Dublin en instaurant de la solidarité. Comment ? Ça, on ne sait pas encore. Mais c'est clair qu'avec la dernière crise en date, le sujet est devenu soudainement beaucoup plus urgent.
Voilà, urgent et toujours aussi sensible à l'intérieur de l'Union européenne. Merci beaucoup Isabelle pour ces explications. On peut espérer que des solutions soient avancées d'ici le prochain Conseil européen à la fin du mois de mars. Merci Isabelle, à bientôt.
À bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
Et une parenthèse littéraire à 13h28, comme chaque dimanche sur Europe 1. Sophie Larmoyer, vous nous proposez de découvrir le monde autrement, à travers les regards d'auteurs, à travers un livre dans le monde. Nicolas Caro nous a rejoint.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sophie.
On évoquait les îles de la mer Égée il y a quelques minutes avec ce sujet difficile des migrants qui arrivent par la Turquie. On change d'ambiance avec vous, mais on reste sur des îles. Vous nous proposez une sorte de tour du monde des îles.
Absolument. Avec cette nouvelle collection aux éditions du Trésor. Les éditions du Trésor, vous savez, c'est une petite maison d'édition qui fabrique des bijoux, des objets livres magnifiques. Et alors là, ils se sont surpassés.
Et ils sont tout en longueur, vos livres.
Oui, ce sont les deux premiers numéros de la collection. Alors, chaque livre raconte une histoire qui s'est passée sur une île. Et effectivement, ça rappelle un peu le format des cartes routières. Et pour cause, regardez-moi ça.
Oui, quand on déplie, c'est une carte.
C'est une carte, exactement.
Une carte
c'est
de l'île.
Une carte de l'île dont il est question, comme une chasse au trésor, si vous voulez. Ça permet de mieux se rendre compte de la physionomie, de la géographie du lieu. C'est déjà un voyage en soi. Ça a l'air facile, dit comme ça, c'est une carte quoi. Mais ça n'a rien d'évident et c'est un vrai plus pour le livre. Bruno Fulini est le directeur de la collection.
Techniquement, ça n'est pas simple. C'est vrai que les éditions du Trésor ont trouvé la solution pour faire ces jaquettes dépliantes qui sont en même temps des cartes. On a vu que ça plaisait beaucoup parce que certains gardent la carte pliée, d'autres au contraire la déplient, l'affichent, certains les mettent sous verre. Il y a plusieurs façons de s'approprier la carte. Ce qui est assez magique, c'est qu'en librairie, on voit un livre, mais en fait, on a à la fois un livre et un objet. qui se déplient et qui donnent à rêver, parce que ces cartes-là sont pas des cartes géographiques simples. Ce sont des cartes qui ont été commandées à des artistes contemporains. Elles sont illustrées, elles sont colorisées. On voit des personnages qui s'agitent sur ces îles. On est vraiment dans l'esprit des portulans du temps de la marine à voile.
Les portulans, ce sont les cartes marines à l'ancienne, vous voyez un peu.
Ah oui, je ne savais pas. Alors, il y a quand même des histoires à l'intérieur. Ce ne sont pas seulement de jolis objets.
Ah bah oui, quand même. L'important, c'est l'histoire vraie d'ailleurs qui nous est racontée à l'intérieur.
Alors, quelles sont les deux premières îles et les deux premières histoires?
Alors, ce sont à chaque fois des petites histoires. Ouais. Ça peut être insolite ou un fait divers. C'est très court. Ce n'est pas une somme ou une fresque. Ouais. Les livres pèsent une soixantaine de pages. Le premier numéro s'appelle « L'île de Marlon Brando ». Le texte est signé Bruno Léandri, qui est journaliste, qui n'est pas historien. Ouais. C'est un journaliste culte de fluide glacial. L'histoire, donc vraie, je rappelle, est racontée avec un style très libre, du coup, enlevé. On s'ennuie pas, écoutez le début. Si Ève a perdu son paradis, c'est à cause d'un fruit succulent, la pomme. Si Marlon Brando a trouvé le sien, c'est aussi à cause d'un fruit, mais fadasse et bourratif, le fruit à pain. Censé être consommé sur toute la ceinture tropicale, il tombe des branches de l'arbre à pain et s'écrase à terre avec de grosses prouatches quand il est trop mûr.
Quel est le rapport avec Marlon Brando, en l'occurrence ?
Il arrive très vite. Ces fruits à pain sont donc très nourrissants et donc les Anglais se sont dit que ce serait pas mal d'en planter sur leur colonie de Jamaïque. Pour la main-d'œuvre, ce serait moins cher. Et donc, ils envoient des bateaux récupérer des arbres à pain, des plants. C'était ce que devait transporter le HMS Bounty.
Comme les révoltés du Bounty.
Exactement, l'histoire vraie voilà de Brando. Cet équipage qui se mutine contre son capitaine odieux et tyran et qui décide de vivre leur vie sur leurs îles paradisiaques du côté de Tahiti. Il y a eu des livres qui racontent cette histoire, des romans et puis des films, et notamment en 62, avec dans le rôle de Fletcher Christian, le chef des mutins.
Marlon Brando.
Et, voilà. Et le tournage a lieu à Tahiti. Et Brando tombe amoureux à la fois d'une femme là-bas, d'une Vainée, et d'une île pas très loin nommée Tetiaroa. C'est cette histoire que raconte le premier numéro. Et on n'est pas au bout de nos surprises du tout. La deuxième numéro, c'est La Bête de Jersey, par Stéphane Bourgoin. Ça se passe entre 59 et 71. Un criminel commet une série de viols et d'agressions. Il revêt pour ses crimes une sorte de déguisement hérissé de clous. Sauf que sur cette île, il n'y a que des notables, pas de police digne de ce nom, pas de crime d'habitude d'ailleurs. Ouais. Il va falloir beaucoup de temps pour identifier le coupable et un innocent sera même accusé à tort. Mais je vous laisse lire puisque ça se lit comme un bon polar.
Et alors ces histoires sont intéressantes aussi parce qu'elles se passent sur des îles justement.
Exactement, c'est la spécificité des îles qui attire Bruno Fulini. Une île, quelle que soit sa taille, c'est pas un lieu comme les autres.
Toutes les histoires et toutes les îles seront traitées, que ce soit des îles maritimes, des îles fluviales, des îles artificielles, des îles de grande taille ou des îlots complètement perdus, presque des rochers. La spécificité de l'île, c'est qu'on est coupé de la masse, on est coupé du continent, on vit d'une autre existence qui est à la fois plus libre et plus oppressante, bizarrement. On n'est plus seul sur une île, on est plus livré à soi-même, pour le meilleur et pour le pire.
Voilà, et toutes ces îles, en tout cas, ça fera une jolie collection dans la bibliothèque.
Ouais, quand on aura toute la collecte, ce sera joli.
Exactement. Insulaire, au pluriel. Donc, c'est la nouvelle collection des éditions du Trésor. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous dis à tout à l'heure pour La Voix et Livres, mais alors vous filez tout de suite parce que c'est une émission spéciale.
Je pars au Deux Magots, le café mythique de Saint-Germain-des-Prés. On va parler de Boris Vian pendant une heure. Il avait l'habitude de fréquenter cet endroit.
Super, on vous y retrouve tout à l'heure à partir de 14h.
Tout à l'heure.
Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Et on quitte les îles et cette petite pause littéraire pour reparler du sujet qui occupe tout le monde, le coronavirus. Et avec vous Sophie Larmoyer, on retourne à la source, là où tout a démarré, c'est-à-dire en Chine.
La Chine a quelques mois d'avance sur nous dans l'affrontement de cette crise et aujourd'hui Pékin affirme que le pic de l'épidémie est passé. On va donc observer ensemble à quoi ressemble le déclin du Covid-19 là-bas. En souhaitant que ce soit le cas le plus rapidement possible aussi chez nous. En Chine, le nombre de cas ne cesse de reculer et se limite désormais à la seule province du Hubei et aux cas importés d'autres pays détectés dans les aéroports. Pour autant, les mesures de confinement et de surveillance restent de vigueur, 2 mois après leur mise en place. Reportage à Pékin de Sébastien Lebelzik.
Dans le cœur historique de Pékin, les quartiers traditionnels sont tapissés de banderoles rouges appelant à la prudence. Le parti veille sur vous et il faut avoir confiance en une résolution scientifique de l'épidémie, peut-on lire. Juste à côté, un retraité monte la garde.
Mon travail, c'est de garder un œil sur le quartier. Je surveille les entrées, les sorties, je contrôle les laissez-passer des gens qui veulent entrer. Je prends la température de tout le monde pour être sûr qu'ils ne sont pas malades. C'est important parce qu'il y en a plein, ils ne veulent pas coopérer. Vous savez, on n'y peut rien, les gens sont comme ça. Il y en a toujours qui essayent de passer sans les contrôles. Alors moi, je surveille ici.
Comme lui, plus de 160 000 vigiles et membres des comités de quartier assurent une surveillance 24 heures sur 24 de la capitale. Interdiction de passer pour les non-résidents, prise de température obligatoire et mise en quarantaine si l'on est sorti ne serait-ce qu'une seule journée de Pékin. C'est à ce prix que l'Empire du Milieu assure être sur le point de gagner la guerre contre le virus. Le pic de l'épidémie est passé et le nombre de malades commence à diminuer. Mais pas question pour autant de relâcher la pression. On peut aller au restaurant, mais seul, interdit de manger à plusieurs. Résultat, Madame Wang a transformé son restaurant en échoppe de rue et ses employés servent les rares clients équipés de larges visières de protection qui couvrent tout le visage.
Pour pouvoir ouvrir, on doit respecter les mesures de sécurité. Le restaurant est désinfecté 3 fois par jour et on vérifie aussi 3 fois par jour que les employés n'ont pas de fièvre. On vérifie aussi que nos clients portent bien un masque. Les clients doivent manger à des tables séparées. Pour que ce soit plus pratique pour tout le monde, on propose aussi des plats à emporter, des légumes et des brioches. On s'est installé sur le trottoir pour que les clients n'aient pas besoin d'entrer.
La vie reprend ainsi peu à peu à Pékin. Le soleil a refait son apparition après plusieurs semaines de grand froid et de neige. Mais les barrières qui ceinturent les quartiers et les résidences sont toujours là. Les écoles vont rester fermées encore plusieurs semaines. La population est résignée, comme cet homme croisé un peu plus loin.
Bien sûr, ça nous dérange pour sortir, pour travailler et même pour s'amuser. Mais quand vous réfléchissez bien, c'est pas trop grave parce qu'il faut faire ça. On n'a pas le choix. Et quand ce sera terminé, tout ira bien. Mais sinon, on n'a pas de difficultés pour la vie quotidienne. On s'organise.
Le gouvernement chinois, en tout cas, ne relâche pas la surveillance. Les checkpoints, les contrôles de température et les vigiles vont rester là, au moins jusqu'à ce que tous les malades soient sortis des hôpitaux. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Retour dans le studio d'Europe 1 et on est en ligne avec Pékin. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sophie.
Vous êtes resté en Chine pendant toute cette période critique de l'épidémie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est sous contrôle ?
Alors en grande partie, oui. Et c'était le sens d'ailleurs de la visite cette semaine à Wuhan du président chinois. Xi Jinping n'a pas prononcé directement le mot de victoire, mais on en est plus très loin maintenant. C'était en tout cas sa première visite dans la ville où tout a commencé, le foyer de l'épidémie. C'est donc une visite très symbolique et c'est le signe que c'est lui, le président et le parti communiste qui ont repris le contrôle. Oui. C'est en tout cas le message officiel. Là-bas à Wuhan, 16 hôpitaux d'urgence ont déjà été démantelés. C'est bien le signe d'un retour progressif à la normale. Les mesures de confinement qui sont très strictes vont pouvoir être levées progressivement. On annonce même la réouverture de l'aéroport de Wuhan, peut-être d'ici la fin du mois. Il faut encore rester prudent, car la Chine fait face maintenant à des cas importés, des malades détectés aux aéroports à leur arrivée d'Europe et des États-Unis. Il y a donc dans ces lieux-là, les aéroports, plus encore qu'ailleurs, des contrôles très stricts. On a compté jusqu'à 7 heures d'attente pour débarquer, pour débarquer tous les passagers, le temps de les contrôler un par un, avec des mises en quarantaine systématiques pour tous les nouveaux arrivants, y compris d'ailleurs quand vous arrivez de France.
7 heures d'attente, on imagine que les contrôles sont ultra sérieux. À la lumière de ce déclin très net du virus dont vous nous parlez, Sébastien, est-ce que l'activité a repris dans le pays ?
Alors officiellement, oui, le gouvernement annonce une reprise de 95% des usines. Mais selon plusieurs cabinets indépendants, on est plutôt autour de 60% des usines qui auraient pu reprendre le travail, car plusieurs d'entre elles, en fait, tricheraient pour faire plaisir à l'État. Elles vont jusqu'à faire tourner les machines à vide pour faire croire que la production a repris, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans les rues, quand même, les gens recommencent un peu à circuler. Je vous le disais, les écoles, par contre, sont toujours fermées. Ça pourrait durer encore un mois. Ouais. Il y a encore beaucoup de contrôles, des mesures sévères dans les restaurants, dans les magasins. On veut éviter la foule, la promiscuité. Les contrôles de circulation sont toujours très stricts. Si on doit sortir de Pékin, par exemple, il y a un système de code couleur en fonction de qui vous avez côtoyé et où vous êtes allé, zone à risque ou non. Et ce QR code D'accord. vous permet ainsi de vous déplacer. Pour ma part, moi, j'ai eu l'occasion de reprendre le métro cette semaine. Il est toujours quasiment désert. La pollution aussi a baissé, forcément, mais on n'en profite pas tellement parce que, comme tout le monde en Chine, on sort le moins possible. Les gens restent quand même très inquiets ici, très prudents, malgré l'annonce du gouvernement chinois que le pic de l'épidémie est maintenant derrière nous.
Est-ce que, selon vous, on saura un jour combien de victimes l'épidémie a fait vraiment ?
Écoutez, le bilan, c'est pas tellement ce qui inquiète hein, les autorités sur le nombre de victimes. Elles sont assez transparentes depuis le début, puisqu'on reçoit chaque jour des mises à jour donc sur le nombre de victimes sur nos téléphones portables et sur des applications. Par contre, on se rend compte que des médecins avaient donné l'alerte dès la mi-novembre dans le pays, soit deux mois avant l'annonce officielle de l'épidémie. Ces médecins ont été arrêtés par la police. Et finalement, c'est sans doute ça le plus gênant, ce manque de transparence. Il aura fallu attendre le 20 janvier seulement pour que l'on commence à parler de cette épidémie. Beaucoup de morts auraient pu être évitées, notamment des médecins qui sont très nombreux à avoir payé de leur vie cette dénégation du régime chinois qui aujourd'hui essaye de reprendre la main. On a entendu Xi Jinping, le président, vanter le travail du Parti communiste pour endiguer l'épidémie, mais l'appareil sécuritaire du parti a aussi été utilisé pour faire taire les critiques. Finalement, le régime avait tout aussi peur de la colère du peuple que du virus.
Et on verra avec le recul quelles conséquences cette crise sanitaire majeure aura en Chine, à la fois sur le plan économique, bien sûr, mais aussi peut-être sur le plan politique. Merci beaucoup, Sébastien. J'imagine que vous aussi voyez avec un certain soulagement le bout de ce tunnel de confinement.
Oui, oui, on l'espère, même si aucune date n'a encore été donnée pour la levée de toutes les mesures de surveillance. Ça prendra encore forcément un peu de temps avant de pouvoir retrouver enfin une vie normale.
Merci beaucoup et à très vite.
Merci, Sophie.
Et encore une bonne nouvelle, tiens. Dans un instant, on vous raconte comment des chercheurs sont en train de mettre au point un nouveau matériau complètement écologique et renouvelable. Et cette précieuse matière, c'est le champignon.
Europe 1, les carnets du monde.
Après le virus, le champignon, mais pas question de le combattre celui-là. Des chercheurs découvrent les innombrables facultés de ces végétaux qui pourraient bientôt faire partie de notre quotidien, Sophie Larmoyer.
C'est très sérieux, la révolution du champignon est en marche. On connaissait les propriétés des champignons, ces êtres vivants dans le fromage ou la fermentation de la bière. La science leur découvre des propriétés insoupçonnées et des applications inattendues. D'ici 5 à 10 ans, figurez-vous que des maisons, des vêtements ou des meubles pourraient être fabriqués à partir de champignons, un matériau inépuisable et évidemment par définition écologique. En Europe, ce sont les chercheurs allemands qui sont le plus en pointe et Hélène Kohl a pu visiter leur laboratoire de Berlin. Reportage.
Kouchtrim Serimi est étudiant dans le département de biochimie de l'Université technique de Berlin. Il nous accompagne jusqu'à la pièce la plus importante pour les chercheurs, une dizaine de mètres carrés seulement. Mais c'est là que tout se joue.
Cette pièce, on l'appelle l'incubateur, car il y fait en permanence 25 degrés et 70% d'humidité. Les champignons poussent dans les meilleures conditions et on cultive tout ce dont on a besoin pour fabriquer nos matériaux.
Il nous montre une table qui secoue des fioles.
C'est un agitateur mécanique. C'est une expérience que nous menons pour savoir sur quelle base, sur quelle matière les champignons poussent le mieux. Est-ce qu'ils préfèrent le maltose, le glucose ou bien juste le bois d'où ils proviennent? C'est le genre de recherche que nous faisons ici.
Sur les étagères, des sachets transparents sont alignés les uns à côté des autres. À l'intérieur, on ne voit rien d'autre que des copeaux de bois.
C'est un petit peu comme dans un paquet de chips. Les petits bouts peuvent bien bouger, mais un champignon y a été introduit et il va se développer petit à petit. Cette préparation, je l'ai faite hier. Au bout d'un jour, on ne voit rien, mais d'ici une à deux semaines, le sachet sera devenu tout dur, comme ici. Les copeaux de peupliers sont complètement agglomérés, le champignon les colle les uns aux autres.
Ce matériau de base, une fois passé à 70 degrés au four, dans un moule, est transformable à volonté, par exemple grâce à une imprimante 3D. L'étudiant a ainsi réussi à développer lui-même un premier prototype de casque de vélo. Le laboratoire de Berlin travaille sur 60 espèces de champignons, ceux que l'on trouve dans la région, autour de la capitale allemande. Le chercheur Bertram Schmidt pense avoir identifié celui qui est le plus prometteur, et vous l'avez sans doute déjà vu autour des vieilles souches.
L'amadouvier est l'un des champignons les plus répandus dans les forêts, sur les hêtres ou les bouleaux. Il survit plusieurs saisons, on le trouve toute l'année, et c'est clairement l'un des plus intéressants à l'heure actuelle.
Il permet notamment l'élaboration d'une nouvelle matière révolutionnaire, explication concrète avec la professeure Veya Mayer, qui dirige le département.
Nous avons ici une sorte de pavé, et la face du dessus est soyeuse. Cette sensation, ce sont les champignons que nous sentons sous nos doigts. À l'intérieur, c'est un mélange de fibres végétales agglomérées par le champignon. C'est très léger dans ma main. Mais si je le laisse tomber de 10 cm de haut sur la table, comme ça, ça ne casse pas. Et on entend bien que c'est très léger.
Testées au laboratoire, les briques du professeur Mayer résistent à un poids de 200 kg. Et d'ici un ou deux ans, elle espère réussir à s'en servir pour bâtir une petite maison.
Cette matière est idéale pour remplacer le placoplâtre. Cela résiste mieux aux incendies, ça étouffe parfaitement le bruit, ça isole parfaitement aussi de la chaleur. Et cela présente une propriété qui s'appelle dissipation de l'énergie. Ça veut dire que si je frappe dessus comme ça, l'énergie du choc est absorbée et répartie sur l'ensemble du bloc. C'est pourquoi nous pensons à une utilisation dans le BTP, dans les régions à risque sismique.
Mais avec les fibres entremêlées des champignons, qu'on appelle le mycélium, on pourra aussi dans l'avenir faire des meubles ou des vêtements. Pour un kilo de textile en champignons, on a besoin de 100 litres d'eau contre 10 000 ou 20 000 pour un kilo de coton. L'objectif à terme est de mettre fin à l'ère du plastique.
C'est correct. Le PVC, le polystyrène, le PET, tout ça pourrait être remplacé par des matériaux dérivés, des résidus de l'agriculture et de l'industrie forestière. Tous ces résidus qui ne sont pas utilisés, nous pouvons les récupérer pour y faire pousser des champignons. Donc oui, en finir avec les hydrocarbures et le pétrole au profit de ce que nous appelons une bioéconomie, une économie basée sur le vivant, une économie circulaire.
Un cercle vertueux, car à la fin du cycle, l'objet en champignons, que ce soit un meuble, un portefeuille ou un casque de vélo, finira au compost. Il est totalement biodégradable et peut même servir à faire de l'engrais. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Voilà, on ne regardera plus jamais les champignons de la même manière. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Vous êtes à Berlin. Tout ce qu'on vient d'entendre là, les briques de construction isolantes et antisismiques, la fibre textile, une solution pour remplacer le plastique, ce n'est pas de la science-fiction. Hein.
Non, le casque de vélo va être breveté cette année, donc on y est déjà. Hein. Alors après, effectivement, les 20 chercheurs et étudiants autour du professeur Veya Mayer travaillent aussi sur des projets de plus longue haleine, comme par exemple l'utilisation des champignons dans les cosmétiques ou pour l'aéronautique. On sait aussi que la NASA aux États-Unis s'intéresse de très près à cette technologie, car cela permettrait de construire les futures bases habitées sur la Lune ou sur Mars, alors soit en transportant ces matériaux qui sont donc très légers depuis la Terre, soit même en les produisant sur place, pourquoi pas. Aux États-Unis, c'est l'université de Cornell à New York qui travaille sur le domaine.
Il va y avoir de la course au brevet. Hein.
Alors, peut-être pas forcément, ça m'a frappé lors de la visite du laboratoire. Veya Mayer insiste sur le fait qu'elle veut vraiment mettre la science au service des sociétés. Et d'ailleurs, elle est en train de mettre en place une banque de données sur Internet. Hein, c'est son but, champignon par champignon, pour que chacun ait accès à cette connaissance, à cette technologie. L'idée est que ce soit une science ancré dans le local, hein, que chacun travaille avec la matière première présente autour de lui, toujours dans l'idée de durabilité et de respect des ressources. Ici, à Berlin, la recherche se concentre sur les végétaux de la région et donc les résidus de colza, les pins, les bouleaux ou les peupliers et puis les champignons de la région. Mais en théorie, ça marche aussi si vous avez des érables au Canada ou des eucalyptus en Australie. Il suffit juste d'identifier le bon champignon pour que ça fonctionne et d'avoir le mode d'emploi qu'elle va donc mettre en ligne.
Ouais, une solution locale pour des problèmes globaux, en fait. Hein.
Oui, alors ici à Berlin, les chercheurs en sont persuadés, les champignons peuvent apporter des solutions aux grandes questions de notre temps, l'habitat, la gestion des déchets, mais aussi l'alimentation, la question de la pollution de l'eau. Il semble en fait que nous avons sous-estimé trop longtemps la puissance et le pouvoir des champignons. Ça va donc bien plus loin que le côté un petit peu anecdotique, cette petite maison en champignons qui évidemment peut faire sourire parce que ça fait penser à la maison des Schtroumpfs. En tout cas, moi, c'est à ça que ça m'a fait penser.
Mais voilà, bien sûr, les Schtroumpfs étaient précurseurs, vous avez raison. Vous évoquiez à l'instant, Hélène, l'une des vertus de ces champignons, la dépollution de l'eau. On creuse un peu ce point-là avec Gilles Burban qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes architecte de formation. Pour autant, vous ne faites pas de la myotecture. J'ai trouvé ce mot rigolo dans un article qui évoquait le rôle que pouvait avoir le champignon dans la construction. Vous, vous avez développé un grand savoir-faire dans la dépollution de certains sites industriels, carrément. Expliquez-nous d'abord, techniquement, en quoi ce petit végétal, quel champignon, est dépolluant?
Alors effectivement, si les champignons produisent beaucoup de matière et permettent de fabriquer des matériaux, ce que vous évoquiez, eh bien, ce sont aussi de très gros mangeurs. En forêt, et ce depuis 350 millions d'années, maintenant, ils mangent toute la matière organique qui tombe sur le sol de la forêt. Ouais. Et elle est très variée, cette matière organique, si bien que s'ils savent dégrader le bois mort, ce qui est sans doute une des choses les plus difficiles à faire dans la nature, eh bien, lorsqu'on les expose à des polluants comme des produits pétroliers, eh bien, on peut leur apprendre tout simplement à digérer, à manger ces matériaux et ces polluants, tout comme ils digéreraient du bois mort.
Donc, ils mangent les hydrocarbures, des résidus d'hydrocarbures.
Ils mangent effectivement des résidus et des hydrocarbures, parfois très complexes, et ce sont les seuls à savoir faire ça sur Terre.
Alors, par exemple, vous avez un exemple de chantier que vos champignons ont nettoyé, entre guillemets.
Alors effectivement, nos sociétés sont basées autour du lac Léman. Ouais. Un premier travail avait été réalisé il y a déjà 3 ans ou 4 ans avec le groupe Eiffage. Et aujourd'hui, c'est avec le groupe Colas qu'on travaille à Genève.
Donc, ce sont de gros chantiers.
Ce sont des chantiers, effectivement, avec des problèmes très concrets, très réels, saturés d'hydrocarbures, de produits pétroliers qui sont assez divers, dont certains sont dangereux pour la santé humaine.
Ça veut dire que c'est une méthode plus naturelle, plus rapide et donc moins coûteuse que les méthodes industrielles qui existent jusqu'à maintenant.
Voilà, absolument. Les champignons sont plus rapides, ils sont plus performants que à peu près toutes les techniques utilisées, et naturellement, ils ont un impact sur l'environnement qui n'est pas comparable avec des méthodes chimiques ou thermiques avec lesquelles on pourrait essayer de traiter ces sols pollués.
Les industriels, ils ont dû vous regarder avec des yeux ronds la première fois que vous êtes allé leur dire « j'ai des champignons pour dépolluer le site et ça sera plus rapide et moins coûteux ».
Oui, évidemment, la première fois qu'on fait pousser des champignons sur un site, le chef de chantier est pour le moins surpris. Effectivement, le travail industriel est de passer d'un savoir-faire qui était cantonné à l'agriculture et de le faire passer dans un domaine technologique avec des facilités de mise en œuvre. Donc effectivement, on fait toujours pousser des champignons sur des chantiers, mais on essaie de ne pas y venir avec de la paille.
La nature sait se régénérer finalement. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Toutes nos technologies sont très consommatrices d'énergie. On chauffe, on acidifie pour arriver à utiliser nos technologies, alors que la technologie de la nature fonctionne à froid, à température ambiante et utilise le métabolisme de petits micro-organismes pour fonctionner. C'est ce que nous essayons de faire en travaillant, en collaborant avec des champignons.
Ouais, donc ce sont des solutions géniales pour aller vers une société bas carbone, ce qu'on a tout intérêt à faire très vite. Évidemment, la nature est décidément inspirante. Merci beaucoup. Gilles Burban, vos deux sociétés de dépollution des sols s'appellent Edaphos et IFEN. Donc vous êtes situé près du lac Léman. Je vous remercie d'avoir partagé avec nous cette expertise et votre passion. Merci.
Merci beaucoup.
Et merci à Berlin, Hélène Kohl. À très vite.
À bientôt.
Europe 1, les carnets du monde.
Toujours avec vous, Sophie Larmoyer. Voilà notre petite escapade qui clôt chaque dimanche les carnets du monde. Une virée en autistan. Voici Joseph Chovanec.
Joseph, qui pour l'instant vadrouille toujours, philosophe, voyageur et autiste Asperger, il est en ligne avec nous depuis la Belgique. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
Alors la propagation du coronavirus provoque des situations inhabituelles, des réactions émotionnelles aussi. Et tout ça vous inspire quelques réflexions.
Oui Sophie, ces images ont fait le tour du web. Dans un supermarché australien à Sydney, 3 femmes se battent violemment pour le dernier pack de rouleaux de papier de toilette disponible. Le tout bien sûr dans ce contexte de ruée sur les magasins en période d'épidémie virale.
Oui effectivement, on a vu des images de rayons vide, dévalisé, des denrées alimentaires évidemment, et c'est vrai, du papier toilette.
Oui, se préparer c'est assurément une chose utile, ce n'est pas moi l'autiste qui dirait le contraire, chacun le fait dans le cadre de sa culture. Par exemple, en Suisse, les candidats à la naturalisation reçoivent, du moins ce qu'on m'a dit, une visite à domicile de la police, laquelle vérifie si la personne dispose d'un stock suffisant de produits alimentaires de première nécessité. En d'autres termes, si la personne fonctionne comme un vrai Suisse. Ce par contre je ne comprends pas, c'est l'histoire du papier de toilette.
Vous aussi, moi ça me laisse perplexe.
Oui, dans beaucoup de pays, tout simplement, on n'utilise pas de papier de toilette et on n'en trouve pas dans les magasins. Par exemple, dans les pays d'Asie centrale, n'en cherchez même pas, ce n'est pas la peine. Tout le monde utilise une douchette. Dans des pays à mi-chemin entre Orient et Occident, les deux systèmes peuvent coexister. Par exemple, il y a des rouleaux de papier de toilette disponibles dans les hôtels de luxe ou les supermarchés haut de gamme, mais les vrais habitants ne les utilisent guère. Il y a quelques années, j'avais assisté à un colloque à Tirana, en Albanie. Avec moi, un groupe de chercheurs d'universitaires turcs. Je n'oublierai jamais la terreur dans les yeux de l'un d'eux quand il avait découvert qu'il n'y avait que du papier de toilette dans les WC, mais pas de douchette.
Voilà, et ce coup-ci, ce sont eux qui ont dû s'adapter.
Oui, Sophie, je ne suis ni médecin ni spécialiste, mais un élément me fait penser à la supériorité du système sans papier de toilette. C'est qu'au Japon, pays par excellence de l'hygiène à des standards quasiment autistiques, ont mis sur autre chose des toilettes de haute technologie, avec des écrans de commande en couleur et des dizaines de boutons. La plupart des simples mortels, dont d'ailleurs votre serviteur, doivent auparavant consulter d'épais manuels pour connaître l'usage de la fabuleuse machine.
Oui, en tout cas, là, dans l'urgence, ça va être un peu compliqué de commander des toilettes japonaises supersoniques, hein.
Oui, alors Sophie, que faire Des journaux australiens, suite à l'épisode de la bagarre de supermarché, ont trouvé une astuce. Laisser 4 pages du journal blanche avec l'indication d'une exquise pudeur que les lecteurs fassent usage de ces pages à leur guise. L'idée a fait sourire le web, mais elle n'est guère nouvelle. Tous ceux qui ont vécu dans un pays communiste connaissent cette astuce, à savoir l'usage des journaux. Mes parents, qui étaient des réfugiés politiques originaires de Tchécoslovaquie, et leurs amis m'avait raconté d'innombrables anecdotes à ce sujet. Ceci étant, tous les journaux ne se valaient pas. L'avis unanime était de privilégier le journal du parti, par exemple la Pravda en URSS ou le Droit Rouge en Tchécoslovaquie. Pourquoi donc ? Ces journaux étaient souvent les moins chers et ils étaient imprimés sur un papier particulièrement délicat. Les plus cyniques murmuraient qu'ils donnaient au journal son utilité. Bref, il y a ce dicton russe qui vient à l'esprit, « Bumaga Bezdouchishto ou Godnopichi. » Donc le papier n'a pas d'âme et il supporte tout ce que tu écris dessus, hein, par opposition à l'être humain. En somme, Sophie, les difficultés liées à l'épidémie en cours pourraient bien avoir un effet positif, à savoir nous donner à découvrir d'autres horizons de vie.
Voilà, une manière de positiver, je vous reconnais bien là. Vous savez qu'en Chine, ces dernières semaines, là, dans les régions qui étaient complètement bouclées, il paraît que les commandes de livres sur Internet ont bondi. Voilà, on peut se passer.
On verra en France.
Voilà, on peut se passer de papier toilette, mais pas de livres. Merci beaucoup, Joseph. À dimanche prochain.
À tout bientôt.
C'est la fin des Carnets du Monde. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés dans ces vadrouilles dominicales. Le podcast est tout à vous sur europe1.fr comme chaque dimanche et chaque semaine. Merci à Marc Fréjean qui a réalisé cette émission, à Florence Gimela qui m'a aidé à les préparer. Tous ensemble, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles aventures, évidemment. Et Nicolas Carreau, il est parti au Demago. C'est là qu'on va le retrouver dans quelques minutes pour son émission La Voix et Livre, une émission consacrée à Boris Vian. À la semaine prochaine, portez-vous bien.